Chapitre 10. Tableau moins sombre. La mort de Déranville sembla jeter nos deux amies dans un vide affreux. Seules maintenant pour elles sur la terre, elles se regardèrent longtemps avec une espèce d'effroi et comme se demandant des yeux ce qu'elles allaient devenir. Ce silence stupide se prolongea sans que l'une des deux adressât la parole à l'autre et sans que leurs yeux répandissent une seule larme. À la fin, des torrents de pleurs s'échappèrent de leurs paupières et, sans les soins du bonhomme Richard et de sa femme, cet état fatal du plus violent désespoir aurait pu devenir funeste à toutes deux. Le bon Richard s'empressa de les consoler. Sa femme les fit descendre chez elle et, pendant ce temps, on eut soin d'inhumer le cadavre et de détourner tous les effets qui auraient pu rappeler des souvenirs douloureux. Quelques jours se passèrent dans la douleur générale, mais enfin, il fallut courber la tête sous les coups du sort, et le calme de nos amis fut l'ouvrage d'un ecclésiastique vertueux et qui était vicaire de la cure de Meudon. Il est temps de faire connaître ce nouveau personnage. Monsieur de Verneuil, je tais ici son véritable nom, était un homme de 36 à 40 ans. Grand, bien fait et portant sur sa physionomie les signes caractéristiques de toutes les vertus de son cœur, il était aussi instruit que bon et sensible. Ce n'était point par un goût décidé que M. de Verneuil avait pris l'état ecclésiastique. Mais, né dans la classe de la noblesse et dans un pays où les aînés avaient tout autrefois, tandis que les cadets se voyaient privés de la fortune de leur père, Monsieur de Verneuil avait été forcé par sa famille de prendre ce qu'on appelait le petit collet. Simple dans ses goûts comme dans son ambition, il avait toujours préféré la vie tranquille, un sort médiocre mais honnête, au fracas des places, au luxe des appointements, et depuis longtemps, il se contentait d'un simple vicariat dans un petit village. Il se rappelait que le facétieux Rabelais s'y était plu autrefois. Et sans avoir la folie de cet ingénieux auteur du Pantagruel, il était fier de ce que, dans son logement, il se trouvait une petite tourelle qu'avait jadis habité cet auteur. Monsieur de Verneuil y avait établi son cabinet, et là, il lisait sans cesse, ou méditait, non sur son bréviaire, mais sur les écrits de nos philosophes. Monsieur de Verneuil était un sage qui jouissait tranquillement de 1200 livres de rente, tandis que ses frères, ses moindres parents, ne trouvaient pas assez dans leur province de 50 000 écus chacun de revenus. Depuis quelque temps, avant même la mort de Rosalie et de Déranville, Monsieur de Verneuil avait fait la connaissance de Jeannette. Il venait souvent à la ferme goûter avec elle ou l'aider dans quelque amusement de jardinage. Il avait su distinguer l'esprit juste, la raison formée et le bon ton de Jeannette. Il lui prêtait des livres ou accompagnait sa jolie voix d'une guitare dont il jouait assez agréablement. Tous deux passaient des moments heureux ensemble et leur vertu, leur décence reconnue, empêchaient la calomnie d'oser noircir leurs aimables entretiens, auxquels d'ailleurs assistait souvent le bon Richard ou sa femme. Il est vrai, et je dois le dire pour préparer les événements qui vont se succéder, que M. de Verneuil ne voyait pas Jeannette d'un œil indifférent. Le bon vicaire était homme et regrettait souvent que les chaînes ridicules de son état le retinssent dans un célibat qui n'était point de son goût. Son cœur, jusqu'alors insensible, s'était attendri pour Jeannette et, s'il n'eût pas été ecclésiastique, il eût 20 fois proposé sa main. C'était surtout depuis que cette passion le dominait qu'il désirait une liberté à laquelle il n'avait jamais pensé. Mais discret, honnête et décent, jamais il n'avait laissé échapper devant Jeannette le moindre mot qui pût déceler son amour. Il se contentait de l'adorer en secret. Et Jeannette, bonne et confiante, n'attribuait qu'à l'estime, qu'à l'amitié, des assiduités qui étaient l'ouvrage de l'amour. Monsieur de Verneuil avait vu Cécile. Cécile était belle, d'une beauté même régulière. Les grâces et l'amabilité régnaient dans toute sa personne. Elle avait aussi bien plus de talent que Jeannette, mais Jeannette avait une de ces figures piquantes qui, jolies sans exactitude de traits, séduisent plus communément que la beauté. Quoique sérieuse et pensive, Jeannette avait un genre de gaieté aimable. Le sourire était sans cesse sur ses lèvres et son esprit était plus cultivé, peut-être même plus solide que celui de Cécile. M. de Verneuil tenait donc à sa première ardeur. Mais s'il ressentait de l'amour pour Jeannette, il avait pour Cécile une estime particulière et un attachement inviolable. C'était l'ami commun de ces deux personnes infortunées et, à l'époque de la perte qu'elles firent de leur père, il ne cessa de leur prodiguer tous les soins, tous les conseils, toutes les consolations qu'on doit attendre, en pareil cas, d'un ami zélé. C'est à lui qu'elles durent le bonheur de ne point succomber à ce coup accablant. Ce fut lui qui leur donna ce courage, cette fermeté qu'elles manifestèrent depuis et dont le sort leur faisait désormais une nécessité. M. de Verneuil ne quittait pas leur simple manoir et nos amis éprouvaient une sorte d'inquiétude lorsqu'il était loin d'elles. Un jour que M. de Verneuil était absent, elles reçurent un petit papier de chicane qui les effraya. Autant qu'elles purent le déchiffrer, elles virent qu'on leur ordonnait de quitter la ferme, attendu qu'elle ne leur appartenait point. Quel nouveau coup on allait porter à leur sensibilité! Elles attendirent avec impatience l'arrivée de leur ami, à qui elles montrèrent ce papier. M. de Verneuil le lut, se promena à grands pas dans la chambre et s'écria « Race humaine! Quelle perversité! Qu'est-ce, monsieur? Que signifie cet ordre de quitter cet asile? Voilà ce que c'est, Cécile! Votre père, quelque temps avant de mourir et se voyant presque ruiné, a passé cette ferme sous le nom d'un nommé Lefèvre. C'est ce scélérat qui veut aujourd'hui vous en dépouiller. » « Le monstre ! » !»« Le connaissez-vous ? » ?»« Nullement. Il se donne le titre d'homme d'affaires. S'il en fait beaucoup de pareils, il ne tardera pas à s'enrichir. Mais rien n'est désespéré. Votre père doit avoir laissé, dans ses papiers, un contre-billet de cette vente simulée. Voyons, cherchons. » M. de Verneuil compulse tous les papiers du défunt. Il n'y trouve rien qui prouve que la ferme de la bergerie lui appartienne. Seulement, il en possède tous les titres et rien n'y annonce qu'elle soit plus à Lefèvre qu'à Déranville. Il consulte, il remet les pièces à un homme de loi, on plaide, on fait force écriture. Et tout cela aboutit, à quoi ? À la perte du procès de Cécile. Elle est condamnée à rendre la ferme au fripon qui la vole, et tout prouve que Déranville a été la dupe de ce misérable qui lui a fait signer ce qu'il a voulu. C'était là le dernier trait dont le sort pouvait frapper nos amis. Elle n'avait plus rien à perdre, elle ne devait plus appréhender de nouveaux malheurs. Les voilà donc tout à fait dénués de ressources, d'asile, sans fortune, sans état, sans moyens même pour se tirer d'affaire, car l'excès de l'infortune avait absolument abattu leurs facultés et toute leur énergie. Pour achever de les désespérer, leur ami de Verneuil, quoiqu'il eût satisfait à toutes les lois rendues contre les prêtres, fut enveloppé dans la proscription générale qui signala le règne de la terreur. L'infortuné fut arrêté, traîné dans un cachot et, n'ayant aucun parent, aucun ami qui pût veiller à ses intérêts, à ses besoins même, ce fut Cécile et Jeannette qui lui rendirent, en cette occasion, les services, dangereux alors, de l'amitié surveillante et active. Mais comment pouvait-elle lui faire passer des secours pécuniaires, elle qui en manquait absolument ? Cécile vendit les effets, les bijoux de sa mère et réussit ainsi à soutenir son amie, elle-même, et l'estimable de Verneuil pendant quelques mois. Cette ressource épuisée, il fallut s'en créer d'autres. Ce fut Cécile qui, la première, proposa à son amie de travailler pour le public à de la broderie, à 1000 ouvrages de femmes. Jeannette ne put retenir quelques larmes en voyant Mademoiselle Déranville, destinée jadis à un héritage considérable, réduite à travailler de l'aiguille pour subsister. Jeannette était aussi très adroite. Elle se mit à l'ouvrage comme Cécile et ses deux amies, habitant un quatrième étage dans une petite rue de Faubourg à Paris, se livrèrent à des travaux assidus, peu lucratifs mais suffisants, vu leur peu de besoins. Depuis quelque temps, M. de Verneuil avait obtenu des secours de sa famille. Il n'était plus à charge à l'amitié et s'il ne rougissait pas des bienfaits qu'il en avait reçus, il ressentait néanmoins une profonde douleur des sacrifices qu'il coûtait à deux cœurs aussi généreux. Cependant, Cécile, qui traitait Jeannette absolument comme sa sœur, à l'exception qu'elle la tutoyait et que Jeannette n'osait pas prendre tant de liberté avec la fille de son bienfaiteur, Cécile était toujours plongée dans une tristesse continuelle. Rien ne pouvait la distraire. Elle soupirait, levait les yeux au ciel, et souvent elle laissait tomber sur son ouvrage quelques larmes qu'elle se hâtait d'essuyer en regardant si Jeannette les avait remarquées. Jeannette avait cru longtemps que sa mélancolie était une suite naturelle de ses malheurs, mais en voyant l'espèce de réserve qu'elle gardait et la crainte qu'elle éprouvait d'être aperçue lorsqu'elle pleurait, tout fit croire à Jeannette que sa douleur avait une cause inconnue. Celle-ci, avec cela, la surprenait quelquefois, lisant avec attention des lettres qu'elle cachait avec précipitation. Jeannette n'osa pas demander à Cécile ses secrets, mais elle était persuadée que son amie en avait pour elle, et cela blessait sa délicatesse.